Bonjour et bienvenue dans l'émission Voyage Essence.
Bonjour Patricia.
Bonjour Julien.
Comment vas-tu aujourd'hui?
Eh bien bien, puisque nous allons nous promener dans la Corse.
Oh, un magnifique Corse qu'on recommande évidemment à tout le monde, comme toutes les autres destinations qu'on a pu traiter. Mais c'est vrai que la Corse particulièrement, peut-être pour ce côté pirate, je sais pas, on le verra.
Ah oui, le côté pirate, corsaire, effectivement, on peut en parler. C'est vrai que quand on pense à la Corse, on se dit la Corse, les corsaires, est-ce que c'est la même chose? Est-ce que ça vient du même nom?
Oui.
Et qu'en penses-tu?
Bah, moi, je pense surtout au drapeau corse. Quand je pense à la Corse, je revois ce drapeau avec une tête coupée qui ressemble aussi un peu à un pirate. Donc, évidemment, moi, instinctivement, ça me fait penser à une île de pirates. Mais en même temps, je te l'ai dit, hein, quand j'étais sur place, j'ai ressenti vraiment ce côté pirate. Donc.
C'est vrai que la terre, enfin la Corse, c'est aussi la terre des bandits d'honneur. Hein, cette tête dont tu parles, qui est à l'origine du blason corse, c'est, alors excusez-moi pour mon accent, Bandera Testa Mora, qui représente donc cette tête de mort depuis 1762. Et ça remonterait au niveau des croisades. On la trouve également sur les étendards du roi d'Aragon. Et cette tête, en fait, signifierait la victoire dont un chef aurait été décapité et la tête portée en haut d'une pique.
Ouais, exactement, ouais. Ce qui est d'ailleurs un peu en contraste avec, on l'appelle quand même l'île de beauté. C'est quand même
Ah
curieux quand
oui,
même.
l'île de beauté, de l'esprit, cette montagne dans la mer. Il y a des poètes aussi qui se
Oui.
sont qui ont écrit sur la Corse, et j'aime bien citer Guy de Maupassant.
Forcément.
Donc quand il débarque en Corse, imaginez, vous voyez cette montagne qui plonge dans la mer, il y a les parfums, il y a les couleurs, et là, cette phrase de Guy de Maupassant qui dit: Cette île est comme une odeur de jolie femme dans la fraîcheur de l'aube.
Ah, mais
Donc
je le
c'est une
rejoins.
terre chargée d'histoire,
Oui. Comme il dit, de parfum.
de parfums.
De senteurs incroyables qu'on retrouve nulle part ailleurs. On est d'ailleurs saisi immédiatement, c'est-à-dire que quand on sort de l'aéroport, notamment dans le sud, à Figari, c'est incroyable ces odeurs, quoi. Ça fait partie en fait du charme de l'île qui vous retient et qui vous donne envie d'investir et de prendre une maison.
On imagine aussi ces décors sauvages, on imagine ces éperviers volant au-dessus du maquis, les montagnes qui font l'amour à la mer.
Clairement, oui. On est parfois sur des plages comme Santa Lucia ou Santa Julia. On se croirait vraiment aux Seychelles ou aux Maldives. On a un décor paradisiaque de cartes postales avec une eau translucide et les petits rochers lissés. Mais vraiment comme aux Maldives.
On pense aussi à ces villages corses qui sont un peu conçus sur le même modèle, qui s'adaptent en fait vraiment aux réalités du milieu naturel.
Clairement.
Et tous ces paysages sont vraiment favorables pour laisser vagabonder son imagination.
Ah oui, ça va même au-delà de ça. On est quand même vraiment sur une île où ils ont eu quelque part, moi je trouve, l'intelligence de protéger leur environnement. Alors après, on est pour ou contre, hein. Bon, c'est vrai qu'on entend beaucoup des bombes sauter à droite à gauche, mais il y a quand même une vraie raison derrière. C'est aussi pour protéger justement de cette masse touristique qui a tendance à malheureusement un peu à tout détruire. Et ils ont vraiment bien protégé leur littoral et leur terre. Donc c'est pour ça, moi, quelque part, je leur tire mon chapeau parce que c'est vraiment chouette.
Alors, c'est vrai que du coup, avec cette défense de cette liberté, la culture corse, elle repose sur des passions. Et je dirais que les trois, quatre grandes passions qui sous-tendent cette culture, on a déjà l'attachement aux traditions, l'attachement aux coutumes. C'est vraiment les traditions et les coutumes comme des points de repère dans la vie pour une véritable reconquête identitaire.
Des valeurs qui sont restées intactes, contrairement à nous en France, qui sont parties, qui sont effilochées avec le temps. C'est vrai que sur place, on le ressent vraiment. Ouais.
Et puis la musique corse, les chants polyphoniques ou monodiques,
Oh, magnifique.
magnifique, j'adore ça, avec ce chant
Incroyable.
qui rythme aussi la vie corse et qui est toujours porteur et témoigne du récit de cette île, de sa mémoire.
Ouais, complètement. Et puis alors, ce qui est très marrant, c'est que chaque Corse chante, mais divinement bien. C'est incroyable. C'est quelque chose qui m'a d'ailleurs très étonné. C'est que partout où on allait déjà y chanter, quoi qu'il arrive, en fin de repas ou à un moment donné, il y a toujours un Corse qui chante. Et peu importe le Corse que vous croisez, il chante super bien. À vous donner vraiment des frissons.
Et tous les événements, en fait, tous les chants sont porteurs, que ça soit des événements heureux ou malheureux, tout est chanté
Ouais,
finalement.
complètement, ouais.
Et c'est peut-être une manière, de mieux vivre ces événements malheureux à partir du moment où on ramène du chant et que la mélodie du chant nous allège, finalement, bah, ça fait du bien.
Tout à fait, un peu à l'image de l'Indonésie qui fête les morts. Quand une personne décède, on fait la fête.
Voilà, et du coup, cette puissance des voix, des émotions, on peut vraiment sentir battre le cœur
Ah ouais.
de cette île en soi.
C'est vraiment ça, le mot est juste, on sent son poumon, on sent cette île, oui, qui vit de par cette richesse géographique, de par cette culture traditionnelle et qui garde vraiment profondément. Ils veulent vraiment pas s'en séparer, ils ont raison. Et c'est vrai qu'on le sent vraiment bien. Ouais.
La Corse, c'est aussi l'art culinaire par ses multiples saveurs.
Alors ça c'est sûr. Alors moi qui suis un gros gourmet et un gros gourmand, oui, alors on se régale, ça c'est une certitude. Alors moi j'ai retenu évidemment des plats qui sont quasiment, oui, des traditions en fait sur place. Il y a évidemment la charcuterie. Alors c'est fait, mais avec amour et avec tradition aussi. C'est bien souvent d'ailleurs des sangliers, des animaux qui se baladent, c'est de manière un peu naturelle sur l'île. Donc ils se gavent que de produits naturels. On parle plus de bio parce que c'est que des produits naturels. Donc du coup après à la fin t'as un produit qui est vraiment exceptionnel. Et la charcuterie est vraiment divine. Il y a les soupes aussi qui sont vraiment exceptionnelles. Alors on n'en parle pas beaucoup, mais ça fait partie de la tradition corse. Systématiquement en entrée t'as une soupe qui est fait après avec plusieurs ingrédients, mais c'est très souvent tourné autour de l'ail, des oignons. On appelle ça un peu la soupe paysanne, tu sais, avec des légumes et des oignons. Il y a les pâtes, évidemment, parce qu'on est quand même proche de l'Italie, hein, faut pas l'oublier. Il y a une bonne partie des Italiens qui se croient corse et pas inversement. Les
Les
fromages,
fromage corse
évidemment.
de
Alors
brebis.
d'ailleurs, une petite histoire, c'est pour ceux qui aiment bien le chèvre. Moi j'adore le chèvre et je me rappelle une petite anecdote. Quand on était sur place, on a été voir un agriculteur qui nous a fait goûter son chèvre. Et avant, il nous dit: je vous préviens, il est fort, hein, ce chèvre. Et nous, on est habitué à manger du chèvre fort. Bah, je peux vous dire que celui-là, il était vraiment fort, mais super bon, quoi. Donc évidemment, les fromages, si on passe à côté des fromages en Corse, on passe à côté de quelque chose. Et il y a fameux le brouchou.
Le brouchou.
Ouais.
Alors, qu'est-ce que c'est que le brouchou?
Alors, on le prononce brooch, en fait, avec un ou, donc brooch. C'est en fait un petit lait de brebis, du chèvre, en fait, qui est additionné de lait entier. Et ça se boit un peu comme. Enfin, ça se mange un peu comme une confiture, en fait, si tu veux. Et c'est évidemment, c'est délicieux. Avec du petit pain grillé, une petite huile d'olive par-dessus, c'est juste parfait,
Ça donne faim,
quoi.
ça donne envie. Alors dans cette culture aussi, bah, sur ces passions, il y a tout ce qui concerne les dictons et les proverbes qui ponctuent ce quotidien corse.
Évidemment,
Alors j'en ai retenu, il y en a beaucoup, j'en ai retenu deux qui étaient, ça, je trouvais sympa. Alors que les Corses me pardonnent bien sûr pour mon accent, je vais essayer de le dire en corse. Arcu di sera, tempu di spera, arcu di mane, aqua un fontane.
oui.
Alors, traduit, ça donne arc-en-ciel du soir, espoir de beau temps, arc-en-ciel du matin, pluie à torrent.
Ah oui, logiquement.
Et une autre aussi que je trouve pas mal. Utunu un casca induvelu, c'è un santu, ci prega per voi. Alors, ça donne la foudre ne tombe pas là où un saint prie pour vous.
Écoute, ton corps, c'est parfait, hein, Patricia.
Ah, merci beaucoup, merci beaucoup. Alors, quand on pense dicton, proverbe, mais on pense aussi contes et légendes,
Et oui,
la
forcément, ouais,
Corse.
comme beaucoup de pays qui sont imprégnés des contes et légendes. Et d'ailleurs, beaucoup d'îles aussi à ce titre, hein, ça me fait penser aussi à l'Islande. Oui, la Corse, en fait clairement partie. Ouais. Je crois que tu as des choses à nous dire d'ailleurs par rapport
Eh
à ça.
oui, c'est l'univers des Mazzeri.
Des Mazzeri, si.
Si, les sorciers.
Eh oui.
Mais aussi des sorcières, des stégées. Des fées, des fatas et des foules et tous les lutins,
Qui
les
sont encore
lutins.
bien présents.
Ouais. Et c'est vrai que cette tradition orale dont on parlait tout à l'heure a perpétué justement ce mythe de l'étrange et du merveilleux. Et cette mémoire corse qui s'est transmise et qui se transmet de génération en génération jusqu'à peu de temps, elle était beaucoup portée par les bergers qui ont toujours été attirés vers le mystérieux. C'était assez fréquent qu'ils lisent l'avenir dans les œufs ou l'omoplate d'un agneau sacrifié, par exemple. Les bergers croyaient aux esprits invisibles. invisibles à ces fameux sorciers, sorcières. Ils croyaient aux présages devinés dans le vol des oiseaux, à l'aspect du ciel, très en contact avec la nature. On retrouve un peu ce
Complètement.
côté où l'homme et la nature ne faisaient qu'un.
Complètement, oui.
Ou encore dans le comportement des animaux. Alors, j'ai justement un petit conte que j'ai envie de partager avec vous.
Je t'en prie.
Alors, nous allons nous mettre en situation. Imaginons-nous au coin du feu, au coin de l'âtre, en train d'écouter cette histoire. Et ce soir, à la veillée, c'est l'histoire du Fouletou. Le Fouletou, on le décrit comme un petit homme qui a une main de fer et une main de chanvre. Lorsque l'on le rencontre sur son chemin, on ne l'oublie pas. Quand il vient dans une maison, par contre, il est très difficile de l'en faire partir. Un soir, en Castagniccia, à la nuit tombée, alors que le meunier était encore en train de moudre son grain, il entendit un bruit. Dehors, un enfant pleurait parce qu'il avait faim et froid. Le meunier, touché par le petit garçon, le ramena chez lui. Et lorsque le meunier voulut réchauffer le petit enfant près du feu, celui-ci eut une grande frayeur parce qu'il ne voulait pas que le meunier voie ses pieds qui étaient tout fourchus. Alors, le meunier retourna à son moulin. Et soudain, la roue du moulin s'arrêta. Il n'y avait plus une goutte d'eau pour le faire tourner. Il vit alors le petit garçon tout heureux, riant et frappant dans ses mains. Tu peux aller te coucher, meunier, dit le petit garçon, car ton moulin ne tournera plus. Le meunier comprit alors qu'il avait affaire à un Fouletou et qu'il serait difficile pour lui de s'en débarrasser. Un lutin, ce n'est pas méchant, mais ça aime faire des mauvaises blagues. Le meunier, après une longue réflexion, se souvint que ce drôle de petit personnage avait horreur du désordre. Alors, il se rendit au grenier et mélangea des grains de blé et des grains d'avoine. Et quand le Fouletou vit que tous les grains étaient mélangés, il se mit aussitôt à commencer à les trier. Mais ce travail était si long et si pénible que le petit homme en eut marre et, dégoûté, il s'en alla, au grand soulagement du meunier.
D'accord. J'imagine très bien, tu sais, le soir, près du feu, avec les enfants, tu sais, qui sont en train d'écouter, ça va être très mignon. Je vois un peu l'image, quoi.
Et il y a plein d'histoires comme ça quand on cherche un petit peu dans les recueils corses qui sont sympathiques et
C'est
qui
ça.
du coup nous font voyager un peu dans ce
Exactement.
monde voilà, l'imaginaire et des
C'est ça.
fées, des contes et des
Puis
légendes.
il faut y greffer l'accent corse qui va bien avec.
Bien sûr, je ne l'ai pas fait ça.
Je reviens un petit peu sur le côté environnemental de l'île, parce que c'est vrai qu'avant tout, quand même, quand tu vas en Corse, c'est comme je disais, tu es sur une île qui est préservée, qui a un environnement qui est magnifique, avec des plages magnifiques, des montagnes magistrales, avec des lacs à perte de vue. Et je pense qu'on a aussi un peu tendance à l'oublier, parce que beaucoup de touristes qui se rendent en Corse, ils vont en juillet-août, ils vont très généralement, tu sais, dans les grandes villes, Ajaccio, Porto Vico, qui est un petit peu plus petite, mais ils vont souvent en fait dans les grandes villes, et ils passent quand même à côté de pas mal de choses. En tout cas, pour ceux qui sont amoureux de la nature, vraiment, c'est à 2-3 heures de vol de France, et on a des panoramas sur place qui vous font oublier des continents lointains. Donc moi j'invite tout le monde vraiment à découvrir, un peu comme tous les autres pays évidemment, à découvrir la Corse vraiment hors sentier battu. Juin, juillet, août, c'est vraiment des périodes qu'il faut éviter parce que c'est vraiment blindé, il y a beaucoup trop de monde, donc on profite pas de l'île, ni des Corses qui en plus au bout d'un moment en ont un petit peu marre de voir trop de touristes et qui sont peut-être pas aussi accueillants qu'ils pourraient l'être si on venait un petit peu en amont ou un petit peu après, quoi.
Et
Donc,
peut-être tu as des lieux à
oui,
donner ou
ben.
des orientations à...
Bah, moi j'ai surtout en fait une région de Corse qui est vraiment peu connue pour le coup. Alors bon, j'en parle donc j'espère qu'il y aura pas trop de monde qui iront sur place parce que ça reste encore un peu protégé. Ça s'appelle la Casinca en fait, c'est à l'est de la Corse et c'est t'es vraiment pas dans la Corse profonde, mais en tout cas tu as accès quasiment au plus beau village en fait de l'est de la Corse, avec le côté traditionnel qui est vraiment encore ancré en Corse et avec des paysages vraiment à couper le souffle. Et c'est très peu connu, donc tant mieux, mais ça vaut le coup d'y aller, quoi. Donc il faut surtout pas hésiter à marcher hors des sentiers battus, à découvrir, à rentrer dans les petits bars, à discuter avec les gens sur place qui se feront un plaisir de discuter avec vous. Et voilà, moi c'est une petite région qui me tient à cœur parce qu'il n'y a encore pas trop de monde en fait qui s'y rentre, quoi.
Et c'est vrai que c'est du coup ça donne une toute autre ambiance quand on se retrouve peut-être presque même dans
Mais
des
clairement.
criques Et du coup, on revient à cette idée de
Eh
corsaire.
ben oui,
De
forcément.
corsaire. Alors, à la question de tout à l'heure, est-ce que corsaire a été inspiré par la Corse? En fait, l'étymologie latine ne penche pas en cette faveur, parce que corsaire viendrait du latin cursus, qui signifie course, croisière ou expédition. Et du coup, le corsaire, c'est celui qui a une lettre de course ou une lettre de marque qui lui donne une sorte de mission à remplir au nom d'un gouverneur, alors que le mot Corse en lui-même, lui, vient du latin Corsi, et qui signifie plutôt les habitants de Corse, la terre étant appelée à ce moment-là, dans un premier temps, Corsica.
D'accord.
Donc c'est vrai que du coup, on retrouve que c'est pas tout à fait inspiré de la même chose.
D'accord.
Et donc, il y avait effectivement beaucoup de corsaires, beaucoup d'habitants de Bonifacio, notamment au XIIIe et XIVe siècle, tentaient leur fortune comme corsaires, et cette vocation était vraiment reconnue
Tout à
et
fait.
légalisée, à l'inverse de celle des pirates.
Exactement, ouais.
Souvent, on se demande la différence entre corsaires et
Ouais.
pirates.
C'est un peu fine, ouais. C'était un bon moyen de se faire passer pour quelqu'un de légal, alors qu'en fait, finalement, tu faisais de la piraterie, quoi.
Voilà, mais en sachant que du coup, les corsaires armaient leurs bateaux pour faire la course, et donc cette lettre de marque qui était délivrée par le gouvernement du capitaine permettait l'attaque et la prise des navires ennemis. Mais la différence avec le pirate, c'est que le corsaire, lui, remettait les prises aux autorités du pays pour ensuite répartir le fruit de la vente, de la cargaison aux gens, ce qui du coup était différent puisque le pirate, lui, c'était en son nom qu'il allait dévaliser les bateaux et les cargaisons.
Je pense qu'il valait mieux être pirate quand même à l'époque.
Alors, c'est vrai qu'un officier anglais qui déclamait que les corsaires français se battaient pour l'argent et les anglais pour l'honneur, un nom connu, Robert Surcouf lui
Surcouf.
répondit: « On se bat toujours pour ce qui nous marque le plus. »
Mais évidemment, oui. C'est très lié d'ailleurs aussi à la passion, hein. Tu te bats souvent quand t'es passionné, peu importe d'ailleurs la passion, mais c'est très rattaché à ça, quoi.
Voilà, et c'est vrai que le Corse, c'est un homme ou c'est une femme, mais de passion.
Ouais.
On retrouve cette idée du bandit corse qui, tour à tour, est craint, admiré, respecté pour son courage et sa bravoure auprès de la population. Et donc, il appartient à la communauté, ce bandit corse.
Une
Il est
vraie caste.
vraiment une vraie caste. Alors que, pour le coup, ceux qui vont aller lutter contre les bandits, donc en l'occurrence les gendarmes, sont les étrangers. Et on
Exactement.
voit ça dans beaucoup de films aussi aujourd'hui. Donc, ce bandit d'honneur est opposé au bandit percepteur. Il y a vraiment
Ouais.
une différence. Et on retrouve ça entre le corsaire et le pirate. Le pirate est plus considéré comme un anarchiste, finalement, que le corsaire, lui, a une structure, enfin, un intérêt dans la vie
Ouais,
commune.
complètement. Mais c'est d'ailleurs très insulaire, hein. Tu sais, sur beaucoup d'îles, en fait, on retrouve un peu cet état d'esprit, hein. Il y a un esprit où on a envie de protéger, en fait, son île de manière un peu naturelle. Parce que c'est vrai, finalement, tu es quand même perdu en pleine mer, tu es un peu livré à toi-même. Je pense qu'il y a un réflexe, en fait, qui est naturel, de protéger son île, justement, et d'être fier de son île, d'être un patriote de son île. Ça me paraît un peu logique, quoi. Et c'est vrai que, pour le coup, quand tu es sur place, tu ressens vraiment ce côté-là. Énergétiquement parlant, tu sens que y a une vraie protection, en fait, de la part des Corses, bonne ou mauvaise, hein, comme je disais. Après, chacun son point de vue, mais on sent qu'ils y attachent vraiment une importance particulière. Ouais.
Et donc ça nous amène aussi à ces valeurs corses. Et donc je suis allée chercher quelles étaient les valeurs dont on pouvait s'inspirer et qui nous aideraient aussi. Ben, la première valeur que j'ai retrouvée, c'est la valeur des hommes libres
Ouais.
et égaux.
La liberté, cette fameuse liberté qu'on est tous amenés à. Bah, en tout cas, je le souhaite pour ceux qui ne le font pas, mais à essayer de retrouver, parce qu'on nous coupe de notre liberté très tôt. Et effectivement, en Corse, oui, ils ont su aussi garder cette liberté. Ouais.
Et dans cette valeur de défense de la liberté des hommes et dans cette égalité, c'est vrai que l'histoire a été marquée par un homme important qui s'appelle Pascal Paoli au XVIIIe siècle, qui était à la fois un général corse, un chef de la nation corse indépendante, mais aussi un homme des Lumières. Alors, qu'est-ce que c'est que le temps des Lumières? C'est l'époque de Jean-Jacques Rousseau, de Voltaire, de Boswell, et ça représente vraiment sous forme de métaphore le courant intellectuel, philosophique et littéraire de ce siècle-là, qui prône l'usage en fait d'une raison qui se veut éclairée et qui est fondée sur une connaissance rationnelle des choses et donc de cette fameuse aussi valeur de la liberté.
Beaucoup de bon sens, oui.
Voilà, et tout ce qui est en relation avec une autorité complètement arbitraire, un absolutisme monarchique ou voire des oppressions religieuses ou morales sont de ce fait mises de côté et rejetées, ce qui ramène cette idée d'indépendance qu'on retrouve beaucoup et de défense de quelque part
Tout à fait, oui.
de ce patrimoine. Et ce qui est vraiment mis en avant, c'est le progrès de tout ce qui est artistique, scientifique et la fameuse recherche du bonheur sur la Terre. On retrouve beaucoup ça.
Beaucoup de créatifs, d'ailleurs, ils profitent tous de leur île. On le voit très souvent, en fait, des Corses qui sont posés quelque part sur un rocher, en pleine nature. C'est une certaine forme de méditation. Je pense que justement cette sagesse qu'ils ont en fait, parce que c'est très proche de la sagesse, c'est dû aussi en grande partie à leur environnement et du fait qu'ils le respectent et qu'ils s'en imprègnent beaucoup. Ils ont vraiment besoin de ça. Ouais.
Alors, il y a ces aspects-là de méditation, on laisse flotter, effectivement, et on profite de la nature. Mais une chose est sûre, c'est que chez le peuple corse, l'humain ne part jamais pour une destination par hasard,
Bien
en
sûr.
fait. Il est toujours soutenu soit par une idée, soit par une idéologie qui le mènera vers sa destination. Donc, s'il veut combattre un ennemi, eh ben, il va aller automatiquement se diriger vers un lieu où il est possible de s'engager, comme
Évidemment.
par exemple Venise au moment des combats contre les Ottomans dans la guerre de Candie, ceci en 1645-1669. Mais si par contre il sent que s'il est plus dans le côté négociant que guerrier, ben, à ce moment-là, il va plus s'installer dans des bords de mer pour se lancer dans la pêche au corail. Cette idée de sens de vie qui est donnée et qui mène vraiment et pour lequel l'humain va être en cohérence avec ça et va pas lâcher. Ce qui parfois nous manque dans nos sociétés parce
Ouais.
qu'on a un sens de vie, mais on le laisse tomber pour X autres
Bah,
raisons.
disons qu'on a pris le dessus sur le côté environnemental, donc on l'exploite totalement, on le prend pour un objet, alors qu'eux font totalement l'inverse. Donc évidemment, c'est totalement logique, quoi.
Et donc, j'aime bien cette idée de suivre son idéologie personnelle encore. Encore faut-il l'avoir trouvé en tant qu'individu, parce que c'est ça qui va nous permettre aussi d'avoir cette forme de liberté d'action qui nous donnera du coup la possibilité de nous diriger vers bon, il nous semble, mais sans nous perdre. Hein.
Bah oui, une fois de plus, ils ont quand même aussi des outils à leur disposition, entre guillemets. C'est vraiment cet environnement. Ils ont cette possibilité que nous, on n'a plus maintenant dans nos villes respectives, en tout cas de manière un peu plus compliquée, de pouvoir prendre du recul, peu importe sur quoi, mais en tout cas de prendre du recul et d'aller justement dans la nature, en bord de mer, en montagne, en forêt. Il y a tout ce qu'il faut sur place pour respirer, pour méditer, pour repenser à tout ça, effectivement, se rapprocher vraiment le plus de son idéologie et de ce qu'on veut amener. Ouais.
Et du coup, ce sentiment, à partir du moment où on répond à son idéal, à hein, son idéologie, eh bien, on va avoir un sentiment de satisfaction intérieure, de contentement
Clairement.
intérieur. On va se sentir heureux et à sa place. Et on voit qu'aujourd'hui, on peut souffrir beaucoup de ne pas se sentir à sa place et d'avoir un sentiment de frustration, par rapport à sa vie, parce qu'on fait quelque chose qu'on n'a pas au fond vraiment choisi. Et donc ces moments de pause avec la nature, et la terre corse est très, très intéressante pour ça, parce qu'elle va nous porter vers ce
Ouais.
sens-là, elle porte ça, je trouve.
Oh,
Hein.
elle porte ce message de justement de rebelle, de pirate, qui te pousse justement à te remettre un peu en question, à réfléchir un peu à est-ce que tu es heureux, est-ce que tu es bien dans ta famille, est-ce que tu es bien avec ton mari, ta femme, est-ce que ton métier te plaît? Ça fait partie, ouais, de ces destinations qui te remettent un peu en question. Ouais.
Et le fait d'aller se promener dans le maquis, parce que là tu nous parlais des plages, et il y a tout cet endroit du maquis qui fait partie vraiment intégrante du paysage insulaire. Mais quand on part en randonnée dans le maquis, on se plonge pour le coup au milieu de milliers d'espèces végétales, d'odeurs de romarin,
Incroyable.
d'un silence qu'on pourrait presque qualifier de divin. Hein,
Formidable.
c'est du ma Alors, il y a plusieurs formes de maquis, que ce soit le maquis bas qui est plus proche du littoral, c'est là où on est les épineux, les genêts, la lavande, et puis plus on se rapproche de la montagne, on est avec du maquis haut, les cèdres, les
Des
chênes,
odeurs, ouais,
les
incroyables.
châtaigniers. C'est vraiment une variété de paysages et d'ambiances qui vont nous faire du bien vraiment,
Ah
et
ouais,
qui permettent ce
complètement.
ressourcement, cette méditation avec soi si on a envie, mais qui vont vraiment, enfin, je trouve, nous faire du bien.
Ah oui, ça agit vraiment naturellement. Alors le soir aussi, c'est quand même excellent, hein, pour peu qu'on ait l'occasion de pouvoir se balader le soir dans les montagnes. Tu as un panorama étoilé qui est incroyable, tu as des odeurs qui vont avec, des fois tu vois passer aussi un sanglier. Enfin, c'est vraiment particulier. Moi, je suis tombé amoureux de la Corse. Et quand je suis revenu en France, je me suis dit, bien, si un jour je peux acheter une maison sur place, mais j'achèterai une maison sur place. Parce qu'il y a, pour moi, il y a tout.
C'est un beau projet. Tu as trouvé ton sens de réalisation, enfin en tout cas un sens de
Oui.
réalisation.
C'est vrai qu'il y a tout ce qu'il faut, ouais, sur place.
C'est vrai qu'on peut vraiment tomber amoureux
Très facilement.
de cette île. Alors, autour des valeurs, les valeurs d'humanisme et de tolérance qui sont portées au fond par une quête de sérénité.
Oui, bah oui, c'est lié à l'environnement, ouais.
Alors cet humanisme, qu'est-ce que c'est? C'est que ça, en fait, dans l'humanisme, on affirme la foi dans l'être humain, et c'est l'être humain qui devient le centre des préoccupations, et en plus, on essaye de conserver une pensée optimiste à son sujet,
Toujours.
ce qui n'est pas toujours évident. Et donc, sur cette terre, cette valeur, elle porte parce que c'est d'essayer, en fait, de tout faire pour permettre son épanouissement à cet être humain, avec la conviction et la confiance dans sa capacité à évoluer de manière positive. Et c'est vrai que, bon, il n'y a pas que l'Écorce, hein, qui amène cette idée-là, cette valeur-là. Beaucoup de philosophes de tout temps, dans la
Bien sûr.
Grèce ancienne, etc., on retrouve ça, mais en tant qu'être humain, nous avons une capacité, tous, hein, il n'y a pas que quelques élus qui l'ont, à évoluer de manière
Tous les
positive.
mêmes, ouais.
Et donc, dans l'humanisme, l'être humain a cette capacité, elle est mise en avant, il est libre et il doit se protéger de tout asservissement de cette liberté et de tout ce qui pourrait faire obstacle au développement de l'esprit.
Exactement. Au développement de l'esprit, mais aussi au développement de sa liberté. Parce qu'effectivement, on nous coupe quand même de notre liberté très tôt. Et on ne s'en rend pas forcément compte. Parce qu'on est pris tout de suite dans l'éducation, dans ce qu'on veut nous apporter pour que cette société en fait soit civilisée. Et c'est vrai qu'à un moment donné, si on prend suffisamment de recul pour s'apercevoir un peu comment les choses fonctionnent, on voit tout de suite en fait qu'on nous a coupé de notre liberté. Et la retrouver après devient pas un graal en soi, mais quasiment. Mais on a des outils à notre disposition qui sont incroyables pour arriver puis de manière assez rapide. Et donc il faut vraiment tendre dans cette direction. J'allais dire, c'est le premier pas vers cette quête du bonheur, c'est retrouver sa liberté.
Et liberté, donc, et tolérance. Et c'est intéressant de regarder, quand on prend cette valeur de la tolérance, qu'est-ce qu'elle sous-tend. Ça vient du latin tolérare, qui veut dire supporter. Et donc, c'est quand même la capacité à accepter quelque chose que, normalement, on devrait refuser, et ou alors qu'on pourrait complètement désapprouver. Et même, donc, pour certains philosophes, ils disent qu'il ne peut y avoir de tolérance sans agression, à savoir qu'on ne peut être totalement tolérant que face à ce qui nous dérange ou ce avec quoi nous ne sommes pas en accord.
Forcément,
C'est toujours facile d'être tolérant avec des choses pour lesquelles on est en accord.
effectivement, oui.
Et donc, cette tolérance se met en place parce qu'on respecte l'autre. Et si on ne le respecte pas, la tolérance, c'est plus compliqué, hein.
C'est le début aussi, oui. C'est d'abord se respecter soi-même et évidemment respecter l'autre. Mais il y a d'abord un travail qui est loin d'être égoïste à faire sur soi, pour d'abord s'accepter, se respecter, pour mieux tolérer effectivement son prochain. Mais tolérance, je trouve que c'est un terme qui est encore un petit peu fort, parce que finalement, si on apprenait aussi à se comprendre, à comprendre comment les choses fonctionnent, comment la nature fonctionne, comment l'être humain aussi fonctionne. Je pense qu'on n'y aurait plus de notion de tolérance. C'est juste qu'on ne fait pas l'effort d'essayer de comprendre l'autre.
En tout cas, toutes ces valeurs-là, c'est au fond, c'est dans une quête de la sérénité.
Exactement. Cette sérénité qui est si douce, qu'on retrouve beaucoup d'ailleurs en méditation. Donc je convie tout le monde à essayer de franchir le pas et à tester la méditation, parce que c'est un outil en termes de développement personnel qui est vraiment magnifique, qui ne nécessite pas beaucoup de temps et qui apporte énormément.
Alors, on arrive à la fin de cette émission.
Déjà, ça passe trop vite.
Replongeons-nous pendant quelques instants dans ce maquis, dans ce romarin, dans
Cette eau turquoise.
cette eau turquoise, ces épineux,
Ah là là.
et laissons partir notre imagination pendant encore quelques instants pour
Ouais.
flotter dans ce beau pays, dans cette belle île qu'est la
Ou
Corse.
prenons des billets d'avion et partons demain.
Aussi.
Eh ben écoute, c'était encore une fois de plus très sympathique comme émission. On se retrouve bientôt.
Voilà, vous pouvez nous retrouver aussi sur nos sites internet respectifs.
Tout à fait. Vous pouvez nous retrouver sur www.nehorizon-travel.com ou sur www.neobianet.fr.
Ou www.evolutionformation.eu ou patriciapenaud.com.
On vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée et à très vite.
À très vite.